Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens. Depuis le mois de septembre, les rues du quartier historique Saint-Leu se parent d'œuvres d'art urbain. Une vingtaine d'artistes issus du street art et de l'art contemporain ont répondu à l'invitation d'Amiens Métropole et de son festival iconique qui se déroulera jusqu'au 17 décembre. Pour nous en parler, j'accueille Pierre Savreux, vice-président d'Amiens Métropole en charge de la culture. Bonjour.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
De rien. C'est la première édition d'Iconique. Pourquoi Amiens Métropole a fait le choix de créer un festival des arts visuels et qu'est-ce qu'il distingue des précédentes Nuits Blanches ?
Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce festival iconique ? D'abord parce qu'on voulait déjà envoyer un message pendant la crise sanitaire. On a eu cette idée pendant la crise sanitaire et on a vu que les artistes avaient beaucoup souffert. Et on s'est dit que l'un des moyens de les accompagner directement, c'était de pouvoir leur offrir la possibilité de créer des œuvres et de pouvoir les exposer dans l'espace public. Donc c'est ça d'abord qui a motivé cette idée. Ensuite, la deuxième idée, c'est que les arts visuels et plastiques, finalement, à Amiens Métropole, ça a longtemps été les parents pauvres de la politique culturelle. On a beaucoup accompagné le spectacle vivant depuis ses 40 ans et on avait le sentiment que les artistes plasticiens ne trouvaient pas leur place à Amiens. Et donc, c'était important de pouvoir leur imaginer un événement qui pourrait montrer leur travail au plus grand nombre. Donc, c'est ça aussi qui nous a permis, qui nous a donné cette idée, c'était vraiment faire en sorte que les habitants puissent découvrir le travail des artistes plasticiens. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, vous le savez, à travers ce festival, c'est consolider la place d'Amiens comme une place forte de l'image. On a beaucoup d'opérateurs qui interviennent sur la filière de l'image depuis des années. On a Marché sur la Bulle, on a Waitsum, on a le Frac Picardie. Et on s'est dit que cette filière image, c'est peut-être ce qui peut nous permettre de nous distinguer à l'échelle de la région Hauts-de-France. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu effectivement faire ce festival iconique.
Donc, il va être marqué par trois parcours. Il y a le parcours street art qui a déjà commencé en septembre, le parcours d'art contemporain à partir d'aujourd'hui et du 24 au 28 novembre, le parcours vidéo mapping. Les artistes avaient-ils un cahier des charges ou avaient-ils toute liberté pour créer ?
Alors, on a fixé un thème à chaque fois. Je sais, par exemple, pour le festival de street art, c'était le thème de l'émerveillement, donc quand même quelque chose de large hein, et qui permettait aux artistes de laisser libre cours à leur imagination. Puis on avait besoin d'émerveillement après cette période de confinement. La thématique du parcours d'art contemporain, c'était habiter et créer. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un thème qui est imposé aux artistes pour donner de la cohérence en fait, au festival.
On peut déjà admirer rue de la Dodane, les tissages de Céline Roucou ou encore emprunter le pont entre la rue des Marissons et la rue des Granges, revisité par Micoël, ou encore admirer la fresque monumentale de Beaulieu sur le mur boulevard Barabans. En tout, il y a une vingtaine de projets artistiques qui jalonnent ce parcours, mais comment avez-vous sélectionné ces derniers ?
Alors, cette sélection, elle s'est faite par les services d'Amiens Métropole. On a constitué un jury de personnes expertes du sujet. Nous avons eu recours aussi à l'association Skatepark 80 qui s'était illustrée il y a quelques temps dans son projet d'espace éphémère Transition à Abbeville, qui a fait parler beaucoup d'elle. Et puis, nous avons aussi noué des partenariats avec le musée de Picardie, l'Artothèque, l'UPJV et le CROUS pour mettre en place cette première édition. On voulait absolument qu'il y ait quelque chose dans l'espace public, pardon, parce que ce qui est important pour nous, c'est faire en sorte que l'art soit au plus près des habitants. Et on a voulu le faire dans le quartier Saint-Leu. C'était un vrai pari, hein. D'abord parce que c'est un quartier historique, donc on ne peut pas y faire n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec l'architecte des bâtiments de France. Et puis, le quartier Saint-Leu, c'est aussi un lieu de passage, c'est un lieu touristique, c'est un lieu où il y a beaucoup d'étudiants, c'est un lieu qui est quartier prioritaire de la politique de la ville, où on a parfois des habitants qui n'ont jamais franchi la porte d'un musée. Et pour nous, c'était extrêmement important de faire en sorte que l'art puisse se trouver sous leurs fenêtres, sur leurs pas de porte. C'est ça qui était vraiment important pour nous. Et quand on a vu, au moment où les artistes sont venus installer leurs œuvres, des habitants sortir, leur servir le café, ou voire même sortir de chez eux pour faire eux-mêmes les commentaires des œuvres auprès des touristes qui passent, on se dit que le pari, il est gagné. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment ça l'objectif, c'était rapprocher l'art au plus près des habitants.
Oui, puis il est très varié du coup. Et effectivement, on a les tissages, je le disais, de Céline Roucou, on a les fresques monumentales des street artistes, et puis on a aussi la photo avec Mathieu Farcy, qui a fait tout un travail avec les habitants. Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, alors il se trouve que Saint-Leu, en picard, ça veut dire le mot le veut dire loup. Et donc, du coup, Mathieu Farcy a travaillé autour de cette notion de loup, les loups que l'on met parfois pour se cacher dans des balles costumées. Et donc, il a voulu montrer que les habitants pouvaient se cacher derrière des loups, mais voilà, n'en perdaient pas pour autant leur sincérité. Et donc, l'idée qu'il a eue, ça a été effectivement de travailler avec ses habitants et de pouvoir valoriser des visages et les montrer dans la rue. Mmh. Voilà.
Elles sont affichées où ? Elles sont affichées où déjà ?
Alors elles sont affichées en face de la fresque de Bolt, c'est-à-dire près de l'ancienne maison de la chasse et de la pêche.
Ensuite, du 9 novembre au 17 décembre, 18 lieux formeront un parcours d'art contemporain permettant la découverte d'artistes plasticiens. Tous, alors il y en a 12 qui ont été sélectionnés et qui sont tous des Hauts-de-France, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Il s'agit déjà de la seconde édition et cette année le thème est double puisqu'il s'agit d'habiter et créer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ?
Eh bien, effectivement, c'est la deuxième édition du parcours d'art contemporain. La première édition avait eu lieu en 2018 et c'est un événement qui devait avoir lieu tous les deux ans et qui n'a pas pu avoir lieu en 2020. Et donc, du coup, l'édition 2021 est un report de l'édition 2020. Et donc là, on est sur un concept un petit peu différent. On est sur le deuxième type de parcours. On a le parcours street art dans Saint-Leu. Et là, on a un parcours d'art contemporain qui permet de mettre en valeur le travail d'artistes locaux ou de la région Hauts-de-France dans les structures culturelles d'Amiens Métropole. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans l'espace public. On est à l'intérieur des structures culturelles d'Amiens Métropole et on leur donne le loisir de s'exprimer à travers une thématique, en l'occurrence cette année, habiter et créer. Et donc, ils font tout un travail aussi de participation avec les habitants, ils travaillent beaucoup avec les associations, ils travaillent dans les centres culturels, ils travaillent aussi dans des écoles. Et l'idée, c'est de permettre aux Aminois de découvrir en fait ce travail participatif à travers ce parcours qui jalonne les structures connues hein, d'Amiens Métropole. On a la bibliothèque Louis Aragon, on a le Safran, voilà, on a plein de
sites. Le FRAC,
la Maison de l'Architecture, on a beaucoup de partenaires qui sont dans cette aventure.
L'objectif est double, j'imagine, c'est aussi amener les habitants à passer la porte de certains de ces lieux.
Absolument. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a motivés dès le départ. C'est la même chose pour le parcours de street art. Les œuvres qui ont été sélectionnées, elles l'ont été aussi pour donner envie aux habitants d'aller plus loin. Je prends l'exemple de la fresque de Gilgamesh, de l'épopée de Gilgamesh, que l'on trouve dans le quartier Saint-Leu. L'idée, c'est de faire aussi tout un travail de médiation avec les écoles. Les écoles viennent découvrir cette œuvre de street art dans la rue. Et l'idée, c'est de leur donner ensuite d'aller découvrir les collections mésopotamiennes du musée. Ouais. Voilà. On a aussi une œuvre qui a été faite par Nadège d'Auvergne, qui est aussi dans le parcours street art, hein, qui a revisité une œuvre qui est au musée de Picardie. Et donc l'idée, c'est évidemment de donner envie aux touristes et aux visiteurs de pousser la porte du musée de Picardie.
Et le dernier parcours, lui, se passera à partir du 24 et jusqu'au 28 novembre. Donc là, ça va être des séquences de vidéomapping créées par les rencontres audiovisuelles. Alors ça va être avec des créations originales dans des écrins sonores, je le lis, seront projetées sur des façades historiques du centre-ville. Alors justement, quels bâtiments sont concernés ?
Alors on a sélectionné des monuments emblématiques pour pouvoir les sublimer et les découvrir différemment, permettre aux habitants de les découvrir différemment. On aura la tour Perret qui sera habillée de lumière, on aura aussi la statue du général Leclerc sur la place René Goblet, on aura le bâtiment Matifat qui est un garage auquel on ne fait pas forcément attention dans la rue des Jacobins, la galerie des Jacobins, la maison du bailliage qui est donc derrière l'hôtel de ville, le Beffroi et le jardin médiéval dans l'impasse Joron. Donc voilà, on a vraiment quelques façades emblématiques et l'idée c'est qu'on a donné la possibilité à des artistes de projeter leurs créations visuelles sur ces façades. Ils ont travaillé avec des sound designers en bon picard, donc des créateurs sonores pour créer une ambiance immersive et offrir une expérience visuelle intéressante et inoubliable aux visiteurs.
Alors les projections, elles sont sur quelle thématique ? Elles sont toutes différentes ? Et comment ça se passe ?
Elles sont tout à fait différentes. On leur a donné une totale liberté de création sur le sujet. Et effectivement, c'est l'occasion aussi de saluer le travail qui a été mené par les rencontres audiovisuelles qui sont un bon partenaire sur ce parcours du festival iconique.
Alors, est-ce qu'il y aura des visites guidées ?
Tout à fait. On a déjà fait une première visite guidée le 16. Pardonnez-moi, le 16 octobre. Et donc, il y aura une deuxième visite guidée pour découvrir. Alors, le 16 octobre, c'était le parcours street art. Et on aura une deuxième visite du parcours vidéo mapping et du parcours d'art contemporain le 26 novembre à 18h.
Si jamais on veut y aller en solo ou en groupe, mais sans guide, est-ce qu'il y a une carte pour nous aider à nous repérer ?
Absolument. Il y a une carte que vous pourrez retrouver sur amiens.fr. Hein, vous tapez Festival Iconique et vous aurez les trois parcours, trois cartes interactives ou qui seront bientôt disponibles également en papier pour découvrir et ne rien manquer de ce festival en trois volets.
Alors ce festival, j'imagine qu'il a été créé avec un objectif sur le long terme, on va dire. J'imagine que vous visez votre candidature à la capitale européenne de la culture 2028 avec ce festival. Est-ce que vous pensez que Amiens, justement, a suffisamment d'atouts culturels pour candidater, puisque je rappelle que face à elle, elle a Reims, Nice, Bourges, Clermont-Ferrand, enfin...
Alors, on a des atouts, ça, ils sont incontestables, mais on a aussi des inconvénients et on en est parfaitement conscient. Et l'objectif de festival, comme d'autres actions que nous menons, c'est justement de corriger ces faiblesses. L'une des faiblesses qu'on a, j'en parlais tout à l'heure, c'est effectivement que on n'est pas aujourd'hui considéré comme un lieu incontournable de la création contemporaine, comme un lieu propice au développement de l'art contemporain. On sait qu'il y a le musée de Picardie qui a été fermé pendant des années, le FRAC n'avait pas forcément un projet ouvert sur les habitants depuis quelques années. Donc l'éducation du regard à l'art contemporain n'a pas pu se faire ces dernières années. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On sent qu'il y a un nouveau souffle qui est en train de venir sur la métropole. On a le musée de Picardie et son département d'art contemporain qui a rouvert ses portes. On a un nouveau projet et un nouveau directeur au FRAC Picardie. On a la Maison de la Culture qui commence à investir de plus en plus les arts visuels. On a le Festival International de Jardin des Ortillonnages qui fait appel à des plasticiens internationaux qui commencent à avoir le vent en poupe. On a des galeries aussi d'expositions qui commencent à essaimer le territoire. On a nous-mêmes inauguré très récemment la galerie Totem sur le parvis de la cathédrale d'Amiens. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le festival iconique entre aussi dans cette logique-là. Et puis, on annoncera dans quelques jours un plan d'investissement massif, notamment la création d'un bâtiment totem dédié aux arts visuels derrière la gare. Voilà, parce qu'on veut combler ce retard-là et on veut vraiment devenir un lieu incontournable de la création contemporaine, devenir une métropole culturelle de premier plan. Donc, c'est ça aussi, capitale européenne de la culture. C'est bien sûr valoriser nos atouts, mais prendre conscience aussi de nos faiblesses et les corriger pour présenter un dossier solide face à des candidatures, vous le disiez tout à l'heure, qui sont solides.
Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres atouts que Amiens pourrait mettre en avant, comme justement sa culture gothique, par exemple, son art gothique?
Absolument, nous sommes la seule cathédrale inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO de la région Hauts-de-France. Nous avons la plus belle cathédrale du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais tous les experts d'art gothique qui considèrent qu'elle est la plus belle synthèse de l'art gothique, qu'elle est l'apogée de l'art gothique. Nous avons évidemment des atouts à valoriser. Nous avons un tissu associatif culturel qui est dense. Nous avons une offre culturelle qui est dense par rapport au nombre d'habitants que nous avons. Et puis, nous avons aussi des forces très importante sur l'éducation culturelle et artistique. Je rappelle que Amiens est la première ville de France à avoir accueilli une CLEA, une classe d'enseignement artistique. Et puis nous avons aussi effectivement tout un tissu associatif et un tissu de structures culturelles qui sont connues à l'échelle nationale. On a marché sur la bulle qui porte le troisième et bientôt le deuxième et peut-être le premier festival BD de France. On a des atouts à valoriser et on ne manquera pas de le faire dans notre candidature.
Bon, ouais, très bien, bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vais vous laisser découvrir dès à présent le second parcours du coup d'Iconique qui débute aujourd'hui. Vous retrouverez l'ensemble du programme sur amiens.fr. Bah, Info Club Sandwich revient demain à midi et 18h. On se quitte en musique avec Icône d'Irène Dresel. Tchuss.
The people.